J'ai une très bonne question pour vous. Quel danger courons-nous si nous refusons de recevoir Jésus comme sauveur au moment où nous entendons son appel? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourrait transformer votre vie, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on n'a pas beaucoup de questions à poser à l'Épître aux Hébreux aujourd'hui, mais ce sont des questions dont les réponses pourront faire toute une différence dans notre vie. Allons donc voir ce que dit la Bible en réponse aux questions que voici. Comment Dieu réagit-il face à notre incrédulité? Pourquoi l'incrédulité est-elle si grave? Qu'est-ce qui se cache derrière la malhonnêteté et les autres péchés? Y a-t-il des choses que nous devons craindre? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes entrés dans le repos que Dieu donne? Si une personne entend l'appel du Seigneur Jésus pour le recevoir comme sauveur aujourd'hui, est-ce qu'elle peut attendre au lendemain pour le faire? Demeurez avec nous. Le Seigneur va répondre à chacune de nos questions par sa parole merveilleuse, la Bible, et par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, nous voulons entrer dans ta présence pour te louer, pour t'adorer et pour écouter avec crainte ta parole merveilleuse, que tu puisses toucher nos cœurs comme tu veux, que tu puisses transformer nos vies par ta parole aujourd'hui. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous vous avons demandé si vous êtes entré dans le repos de Dieu à cause de son incrédulité. La génération d'Israël qui est sortie d'Égypte a dû errer 40 ans dans le désert, et elle n'a pas pu entrer dans la terre promise. De même, notre incrédulité peut nous empêcher de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir comme sauveur personnel, et aussi pour marcher dans ses voies et jouir d'une relation personnelle et intime avec lui. Cet avertissement est répété plus d'une fois. Car nous sommes tous en danger de nous laisser entraîner par la séduction du péché. Nous avons vu que l'incrédulité n'est pas un problème intellectuel, mais un problème de cœur. Si nous n'entrons pas dans le repos de Dieu, c'est parce qu'il y a un voile sur notre cœur et non sur notre visage. Nous avons aussi mentionné que nous endurcissons notre conscience lorsque nous persévérons dans un ou des péchés. Nous ne devons pas tolérer de péché dans notre vie. L'incrédulité est en fait un péché très grave. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec la pensée sur laquelle nous nous sommes quittés à la dernière émission. Relisons les versets 14 et 15 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 3. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il y dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Illustration du repos qu'apporte la confiance en Dieu. L'incrédulité peut nous empêcher d'entrer dans le repos de Dieu. J. Vernon McGee illustrait ceci avec ses expériences en avion. Le pasteur McGee n'aimait pas voyager en avion. Lorsque je revenais à Los Angeles après un voyage à Londres, il y a peu de temps de cela, nous volions au-dessus d'une couverture nuageuse jusqu'à ce que nous ayons atteint le Groenland. Nous pouvions voir les icebergs et les glaciers. Vus de très haut, ils ne sont pas aussi beaux que sur les images. Ils semblent froids et menaçants. J'ai vu un glacier étendu entre deux montagnes et il atteignait le bord de la mer. Alors, j'ai prié ainsi. Seigneur, tu sais que je te fais confiance lorsque je suis au sol, mais j'éprouve de la difficulté à te faire confiance lorsque je suis dans les airs. Je suis dans une situation où j'ai besoin de te faire confiance. Aide-moi à me reposer dans tes bras et à te faire confiance. Pour la première fois de ma vie, je me suis endormi en avion. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Je devais toujours demeurer éveillé afin de pouvoir aider le capitaine de l'appareil. Cependant, cette fois-là, je me suis endormi et j'ai tout laissé entre les mains du prince de mon salut. Lorsque l'avion est atterri à Los Angeles, j'ai dit « Merci Seigneur pour les petites victoires. Ce n'était pas grand-chose pour toi, mais cela signifie beaucoup pour moi. » Mes amis, ceci est le repos dont parle l'auteur de cette épître. C'est le repos qui résulte d'une confiance totale en Dieu, non seulement pour le salut de notre âme, mais aussi pour notre marche quotidienne, pour l'aide, la sagesse et la force dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu. Le peuple d'Israël a erré dans le désert parce qu'il n'a pas eu la foi nécessaire pour entrer dans la terre promise. Comme nous l'avons vu, le pays de Canaan n'est pas une image ou un symbole du ciel. Cependant, ce pays représente un lieu de bénédiction spirituelle et de victoire. L'apôtre Paul parlait de sa propre expérience lorsqu'il a lancé ce cri du cœur. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce n'est pas le cri d'un homme non sauvé que nous entendons, mais le cri d'un chrétien qui ne connaît pas la victoire, qui ne trouve aucun contentement en Christ Jésus, car il ne lui fait pas confiance. Au début de sa marche chrétienne, l'apôtre Paul a lutté avec l'incrédulité. Revenons au texte d'Hébreux chapitre 3, lisons le verset 16. « Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon... tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » L'incrédulité suscite l'indignation de Dieu. Le mot grec traduit « révoltaire » est « parapikreno » et il signifie « provoquer, pousser à l'indignation ». La conduite d'Israël a énormément déplu à Dieu. Le peuple a eu suffisamment de foi pour sortir d'Égypte, mais pas assez pour aller plus loin, pour prendre possession de la terre promise. Verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Pourquoi est-ce que l'incrédulité est si grave? La question est posée encore une fois. Quel péché grave a tant irrité Dieu? C'était l'incrédulité. Nous ne nous rendons pas toujours compte que douter de la parole de Dieu est un péché très grave, et Israël ne s'en était pas rendu compte non plus. C'est un péché grave, car il conduit à d'autres péchés. Dans le cas des Israélites, ils se sont fabriqués un veau dans le désert, cela a conduit à l'immoralité sexuelle, et cela a finalement conduit à un rejet total de Dieu, alors qu'ils ont voulu retourner en Égypte. Le peuple avait déterminé que l'esclavage en Égypte était préférable à marcher par la foi vers la terre promise. Malheureusement, de nombreux chrétiens marchent encore selon les principes de ce monde. Ils ne sont pas disposés à faire vraiment confiance au Seigneur Jésus et à marcher selon ses principes, sous sa direction. Notez la question que l'auteur pose. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Il a été irrité contre la foule qui sortit d'Égypte. Celle-ci avait péché, et tous ceux qui avaient plus de 20 ans ont péri dans le désert. Seuls 2 hommes ont eu confiance en Dieu, soit Josué et Caleb. Ce sont les 2 seuls à être rentrés dans la terre promise. Moïse l'a vu de loin, mais il n'y est pas entré, mais pas à cause d'un péché d'incrédulité, plutôt à cause de sa désobéissance. Plutôt que de parler au rocher comme Dieu le lui avait demandé, il s'est irrité et il l'a frappé avec son bâton. Verset 18. « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? » Qu'y a-t-il souvent derrière la malhonnêteté et d'autres péchés? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? C'est le repos du pays de Canaan, de la terre promise. à cause de leur incrédulité. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était de vivre dans la terre promise, de jouir de ses fruits et de trouver une quiétude de l'âme en faisant simplement confiance à Dieu. Dieu a déclaré qu'il n'entrerait pas dans son repos, et il a même prêté serment à ce sujet. Croyez-moi, rien n'oblige Dieu à prêter serment, mais lorsqu'il le fait, il faut prendre cela très sérieusement. De qui parle-t-il donc? De ceux qui avaient désobéi, de ceux qui ne l'avaient pas cru. Ce n'est pas l'adoration du veau d'or ou leur immoralité sexuelle qui leur a retiré les bénédictions divines. Ce fut le péché d'incrédulité. Mes amis, l'incrédulité nous prive de nombreuses bénédictions et nous conduit à la désobéissance et à d'autres péchés. Un homme a dit à son pasteur, « Voilà, je suis chrétien et j'ai fait la chose la plus stupide. » Eh bien, il avait fait quelque chose de malhonnête et il était troublé par sa malhonnêteté. Cependant, il n'a pas été troublé par la véritable racine de son péché. Il ne croyait pas Dieu, il ne faisait pas confiance à Dieu afin de pourvoir à ses besoins. Cela ne le dérangeait pas, pourtant, c'était son véritable péché. Poursuivons la lecture d'Hébreux chapitre 3, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Je vous recommande de souligner ce verset dans votre Bible, l'incrédulité, le péché, qui nous prive de nombreuses bénédictions. Les deux premiers versets du chapitre 4 font partie de l'avertissement au sujet de l'incrédulité que nous donne le chapitre 3. Débutons la lecture d'Hébreux chapitre 4. Lisons le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Nous devons craindre certaines choses. Ce verset emploie l'impératif présent. L'auteur avertit et encourage les croyants, mais il s'inclut dans l'avertissement. Le danger qui guette les croyants le guette aussi. Craignons donc. Il y a des personnes qui veulent toujours trouver la parole de Dieu en défaut. Ces personnes affirment que ce verset en contredit d'autres de la Bible. Par exemple, ils contrediraient Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » L'apôtre Paul a aussi dit, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée chapitre 1, verset 7. J'espère que vous craignez certaines choses, tel un serpent venimeux. Si je rencontre un serpent à sonnette sur la route, je ne me contenterai pas de me tasser de deux pas. Je lui laisserai tout le chemin. Il y a certaines choses que nous faisons bien de craindre. Craignons donc. J'aimerais que les croyants s'inquiètent davantage de leur ignorance de la Bible. J. Vernon McGee a été le pasteur d'une église dans une petite ville. Sur le conseil de l'église, il y avait un homme qui siégeait aussi sur tous les conseils de la ville. Il était invité à tous ses comités parce qu'il était très riche. Il se vantait de tous les conseils dont il faisait partie. Puis un jour, il s'est vanté devant McGee qu'il ne connaissait pas la Bible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit « Craignons donc !» Cet homme très riche aurait dû confesser son ignorance de la Bible avec une certaine appréhension. Il aurait dû être dans la crainte parce qu'il ne connaissait pas la Bible. Très peu de croyants s'inquiètent du fait qu'ils connaissent si peu la parole de Dieu. Lorsque l'auteur dit « Craignons donc !» il parle d'une crainte saine. Lorsque j'amène mes petits-enfants prendre une marche avec moi, je les avertis de ne pas aller dans la rue. Je veux qu'ils craignent de jouer dans la rue. C'est une crainte saine. La Bible dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Proverbe 1, verset 7. Plusieurs traductions de la Bible emploient le mot « sagesse » plutôt que le mot « science ». Voilà le genre de crainte que nous devrions avoir. l'exhortation à craindre a un but, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. L'auteur va beaucoup traiter du repos dans le reste de ce chapitre. Ici, l'auteur encourage les croyants à craindre afin que le repos d'une communion personnelle avec Dieu ne leur échappe pas. Combien de croyants ne jouissent pas de ce repos aujourd'hui? Avez-vous entré dans ce repos, mes amis? Savez-vous par expérience ce que c'est que de faire confiance au Seigneur Jésus et de se reposer en lui? Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ce verset décrit le repos du salut, le repos de la rédemption. Ces personnes ont entendu la bonne nouvelle, mais elles n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur. Elles ont entendu le message de l'Évangile, mais elles ne l'ont pas cru. Moïse a guidé les enfants d'Israël hors de l'Égypte, mais il n'a pas pu les faire entrer dans le pays de Canaan, la terre promise. Cette tâche est incombée à Josué, mais nous verrons qu'il n'a pas pu leur donner du repos. Plusieurs d'entre eux n'ont jamais goûté au repos de Dieu. Ils n'ont jamais vraiment pris possession du pays. Le monde, la chair et le diable les ont privés des bénédictions que Dieu avait en réserve pour eux. Nous vivons dans un monde cruel et méchant. Ce monde n'est pas un ami de la grâce divine, ni des croyants. Plusieurs d'entre nous n'avons pas encore découvert cela, bien que ce soit beaucoup plus évident dans notre société contemporaine. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Avez-vous véritablement entré dans le repos du salut? Ici, l'auteur parle du repos du salut, du repos qui résulte de placer notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous connaissiez quelqu'un qui affirme être un véritable croyant, et que vous croyez sincèrement qu'il est né de nouveau, et que ce croyant cesse de marcher comme un chrétien, et qu'il se conforme au monde, qu'il cesse de fréquenter son assemblée, qu'il cesse de contribuer à l'œuvre de Dieu, qu'il cesse toute participation à des activités chrétiennes, penseriez-vous que ce croyant a perdu son salut? Si vous étiez cette personne, croiriez-vous avoir perdu votre salut? Si vous pensez qu'agir ainsi vous ferait perdre votre salut, alors, au fin fond de vous-même, au plus profond de votre cœur, vous ne faites pas vraiment confiance au Seigneur Jésus. Vous croyez que toutes les activités énumérées contribuent à votre salut alors que ce n'est pas le cas. Vous devez faire entièrement et uniquement confiance au Seigneur Jésus. Comprenez-moi bien. Je crois que si vous avez placé votre entière confiance en Jésus-Christ, vous ferez les choses énumérées. Cependant, elles ne contribuent en rien à votre salut. Mes amis, avez-vous véritablement entré dans le repos du salut? Revenons à notre texte d'Hébreux chapitre 4 en lisant le verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Ceci est le jour du sabbat. Dieu s'est reposé le septième jour, et ce jour est le jour du sabbat. Cependant, aujourd'hui, le sabbat n'est pas un jour que nous devons observer. Avez-vous entré dans le véritable sabbat aujourd'hui? Faites-vous entièrement et uniquement confiance à Jésus-Christ pour le salut de votre âme? Vous appuyez-vous sur quoi que ce soit d'autre? Est-il votre seule et unique voie de salut? Avez-vous entré dans son repos? J. Vernon McGee racontait cette anecdote pour expliquer ce qu'est le sabbat du croyant exactement. J'avais un bon ami qui était médecin et il observait le sabbat le samedi. Nous jouions au tennis ensemble et nous sommes venus à bien nous connaître. Un jour, après avoir disputé 3 sets, nous nous sommes assis sur un banc. Et nous avons eu une petite discussion sur la question du sabbat. Il m'a demandé, « McGee, observes-tu le sabbat? » Oui, j'observe le sabbat. Quel jour? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et ensuite, je recommence un autre cycle, le samedi. Lui ai-je répondu. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, de la façon dont je comprends l'Épître aux Hébreux, le sabbat est le régime de grâce sous lequel nous vivons présentement, depuis que le Seigneur Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, et qu'il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Il s'est assis, non parce qu'il était épuisé, mais parce qu'il avait terminé de payer le prix de notre rachat ou notre rédemption. Maintenant, il nous dit de nous reposer en lui. C'est donc le sabbat tous les jours. Je me repose en Christ Jésus. Eh bien, c'est mieux qu'avoir un seul jour de sabbat, n'est-ce pas? Me dit le médecin en me regardant avec étonnement. En effet, répondis-je, 7 jours par semaine est le sabbat du repos en Christ Jésus. Lisons les versets 5 et 6. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Le mot grec traduit « désobéissance » est « apetéa » et il signifie « indocilité ». Quelques traductions de la Bible le traduisent par « incrédulité » et ce n'est pas faux. L'incrédulité conduit à la désobéissance. C'est l'incrédulité qui vous prive du repos de Dieu, soit de votre salut, soit d'une relation personnelle avec lui. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de venir au Seigneur Jésus. Notez qu'il ne dit pas demain, mais il dit aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que vous entendez cet avertissement, c'est le temps de votre salut, c'est le temps de vous tourner vers le Seigneur Jésus. C'est présentement le temps de votre salut, c'est l'heure de répondre au Seigneur Jésus et de l'accepter comme sauveur personnel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Josué est un mot hébreu qui signifie sauveur. Jésus est le mot grec pour désigner un sauveur. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Lorsque Josué est devenu très âgé, il restait encore beaucoup de territoire à conquérir. Le peuple n'avait pas encore conquis tout le territoire promis. Il ne jouissait pas encore de toutes les bénédictions que Dieu leur avait réservées. Josué n'avait pas réussi à toutes les obtenir pour eux. Cependant, mes amis, si vous faites confiance au Seigneur Jésus, vous pouvez jouir des fruits de l'Esprit, des bénédictions divines et d'une joie débordante pendant votre vie terrestre. Nous avons besoin de ce repos aujourd'hui. C'est l'incrédulité qui nous en prive. Mes amis, vous avez aujourd'hui l'occasion d'entrer dans le repos d'un Sauveur qui vous a aimé au point de donner sa vie en rançon pour vous sur la croix. Invitez-le dans votre cœur. Vous ne savez pas quand votre heure viendra. Un accident est si vite arrivé. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux chapitre 4, les versets suivants, 9 à 13. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Vers la fin de ton enseignement, tu as dit « Aujourd'hui, vous avez l'occasion de venir au Seigneur Jésus ». Et tu as ajouté que c'était l'incrédulité qui nous privait du repos de Dieu. Mes amis, permettez-moi de me joindre à Régent, qui a dit quelque chose de tellement important à la toute fin de son message. Il a dit, « Mes amis, vous avez aujourd'hui l'occasion d'entrer dans le repos d'un Sauveur qui vous a aimé au point de donner sa vie en rançon pour vous sur la croix. Invitez-le dans votre cœur. Vous ne savez pas quand votre heure viendra. Un accident est si vite arrivé. assurez-vous une place dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors je m'adresse à toi, mon ami. Toi qui entends l'appel de Dieu en ce moment. Crois-moi, ce n'est pas l'appel de Régent, ce n'est pas l'appel de Carou, c'est réellement l'appel de Dieu, l'appel de Jésus. Il est mort sur la croix pour payer en entier la dette de nos péchés. Mais il ne faut pas oublier qu'il est ressuscité le troisième jour, mon ami. Jésus est vivant et en ce moment même, il s'adresse à toi par ma voix. Il connaît tout de toi. Il connaît tes bons coups, il connaît tes mauvais coups. Tu ne peux rien lui cacher. Il est omniscient, il connaît tout. Il sait que tu es perdu, que tu marches vers la condamnation éternelle présentement, si tu ne l'as pas encore reçu comme sauveur. Si tu n'as pas encore placé ta confiance en lui seul pour le pardon de tes péchés. Alors mon ami, puisqu'il a payé ta rançon, tu n'as rien à faire pour être sauvé. Tu n'as qu'à croire en Jésus, croire que c'est pour toi personnellement qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix. Et voici ce que Jésus te dit en ce moment. Tu peux le lire dans le troisième chapitre de l'Apocalypse, au verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, n'aimerais-tu pas souper avec Jésus? N'aimerais-tu pas avoir une telle intimité avec lui et savoir que cette intimité va durer éternellement? Oh, mon ami, ouvre la porte de ton cœur. N'attends pas à demain. Y a-t-il quelque chose qui t'empêcherait de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur maintenant? Un péché, peut-être? Abandonner une relation que Dieu n'approuve pas ou une dépendance telle que l'alcool ou la drogue? Je sais, je suis passé par là. Mais je sais par expérience que lorsqu'on se repent, qu'on décide de changer de direction à l'égard du péché et que se tourne vers Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés, il nous donne non seulement le don gratuit de la vie éternelle, mais aussi la puissance de son esprit qui vient habiter en nous pour être délivré de tout esclavage, de tout péché. Et c'est là qu'on trouve le vrai repos, la vraie vie. Mon ami, ouvre ton cœur à Jésus. Invite-le à entrer dans ton cœur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut, comme le dit la Bible, la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois venir à Jésus. N'attends pas à demain. Personne ne sait s'il va vivre demain. Aujourd'hui même, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur à sa grâce. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-le entrer maintenant. Je t'en supplie, n'attends pas à demain. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir, ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.